Alors, on est dans l'évangile de Jean. Peut-être qu'on va... OK, voilà. Donc, on avait commencé ça en août. Le dernier message que j'ai apporté en août, j'avais commencé sur Jean 5, 1 à 47. Et j'ai fait les 15 premiers versets, Jean 5, 1 à 15, qui est le miracle de Jésus à la piscine de Bethesda, où il guérit un paralytique qui est là, couché, qui attend d'être guéri. Et là, il va vers lui, puis il lui pose cette question, « Veux-tu être guéri? » Et naturellement, lui, il dit pas « Oui, je veux être guéri. » Il dit juste « Ben, c'est pas ça le problème, que je veux aller être guéri ou pas. Le problème, c'est que j'ai pas personne pour m'aider. » Alors pour lui, la seule espoir qu'il avait, c'est d'avoir un bon Samaritain qui vienne l'aider à aller dans cette piscine aussitôt que l'eau était bougée, parce qu'il y avait cette croyance que si on pouvait se rendre assez vite et être le premier qui tombe à l'eau quand ça arrivait, au moment que ça arrivait, eh bien là, il y avait la possibilité d'être guéri. Alors là, du moins, j'ai pas d'espoir parce que j'ai pas personne pour m'aider, puis moi, je peux pas me déplacer. Naturellement, je suis couché sur un lit. Et là, Jésus interagit avec lui, et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit ceci. Imaginez-vous, là. Ah, j'aurais aimé ça être sa paralytique-là. Hein? Il me semble vivre ce moment-là. Pensez-y deux minutes, là. Vous avez jamais marché de votre vie, là. Jamais, jamais, jamais. Vous avez vu les autres marcher. Vous avez vu les enfants marcher. Vous avez vu les personnes âgées marcher. Vous avez vu tout le monde marcher. Puis vous, vous marchez pas. Puis là, il dit quoi? Non, non, mais après ça. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Jésus quoi? Prends ton grabat, ton lit. OK? Et marche. Imaginez-vous. Wow! Oh, que j'aurais aimé ça, moi. J'aurais aimé ça, le vivre. Comprenez? Qu'est-ce que ça peut créer? Tu sais, gagner la 649, là, c'est de la petite gomme. Pensez-y deux minutes, là. Hein? Un peu comme si quelqu'un est mourant ou quelque chose comme ça, puis là, il est guéri. Ce qu'il pensait qui était impossible. Tout à coup, est possible. Et là, sa vie est complètement transformée. Êtes-vous d'accord? Puis là, en plus, c'est Jésus qui le fait. Et là, naturellement, ça entraîne toutes des circonstances, dont une réaction des leaders religieux qui, eux autres, au lieu de se réjouir qu'un miracle a eu lieu, c'est-tu ben, incroyable, hein? Ils commencent à critiquer cet homme-là? Pourquoi il critique cet homme-là? Au lieu de voir qu'il guérit, c'est pas n'importe quoi, il est guéri! Jamais il a marché de sa vie, il est guéri! Puis là, au lieu de lui dire « Wow! Hey! » Qu'est-ce qu'ils disent? « Wow! » Fais là, toi là, là, dis Joe! C'est le sabbat! Puis là, il dit « Ben, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et savez-vous pourquoi que ils veulent tant savoir, et ça on va le voir dans la partie du verset 16 au verset 47. Là, à partir de là, parce que là il dit dans le fond, moi c'est pas de ma faute là, c'est pas mon initiative personnelle cette affaire-là. Quelqu'un m'a dit de prendre mon lit et marcher. Puis c'est celui-là qui m'a guéri, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? OK, c'est qui t'a dit ça? Hein? C'est qui le coupable? Parce que dans la loi juive, il y avait ceci, c'est-à-dire leur loi, pas la loi de Dieu, là, pas ce que l'Ancien Testament, par exemple, prescrivait, mais dans les traditions juives, dans la compréhension qu'essayait de faire du texte biblique, qui disait de respecter le sabbat, donc ça, c'était dans la loi, mais eux, voulant probablement bien faire, OK, il ne faut pas leur donner un motif méchant, mais leur motif de base, c'était, OK, comment on va respecter le sabbat? Et là, il y a un groupe d'hommes qui s'est réuni entre eux, puis là, ils ont dit, OK, là, il faut trouver des façons concrètes et pratiques que les gens, ils cherchent, c'est quoi respecter le sabbat? Puis là, il faudrait répondre à la question qu'on nous pose constamment. Ben oui, mais ça, je peux-tu faire ça? Ou ça, je peux-tu faire ça? Ça, j'ai-tu le droit de faire ça? C'est ça, une religion. Comprenez? Une religion, c'est que c'est d'autres personnes qui nous disent quoi faire, puis qu'est-ce que Dieu attend de nous. Puis c'est sûr qu'au point de départ, ces gens-là peuvent avoir une belle sincérité de cœur, peuvent être bien sincères puis bien désireux de faire qu'est-ce qui est bien. Mais c'est mal. Et là, eux autres, ils en avaient trouvé 39. Imaginez-vous. Peut-être pour aller avec les 39 livres de l'Ancien Testament, que ce soit facile à reconnaître, je sais pas. Mais ils en avaient trouvé 39. 39 façons de dire ça, tu peux pas faire ça. Ça, tu peux pas faire ça. Puis une des 39, ça donnait que c'était le jour du sabbat, tu ne transporteras pas ton lit, ton grabat, tes affaires. Ou du moins, il y avait une distance permise qui n'était pas tellement grande. C'était comme, je pense, si ma mémoire est bonne, là, un jet de pierre. Donc, à peu près, en tout cas, pas tellement long. Puis là, lui, il n'a pas respecté, c'est pas qu'il n'a pas respecté le sabbat, mais il n'a pas respecté une des 39 prescriptions qu'eux autres avaient dans leur tradition humaine d'avoir défini ce qui était permis, ce qui ne l'était pas. Et ce qu'on voit dans les Écritures, et on va le regarder brièvement ce matin, c'est que Jésus, c'est pas la seule fois où, justement, il est confronté à cette fameuse observation du sabbat versus ce que tu fais, c'est contre l'observation du sabbat. Mais ici, là, dans le texte, c'est la première fois qu'il répond d'une façon qui est absolument renversante. Les autres fois, là, il essaie d'expliquer ou de revenir, si je pourrais dire, à « Ben oui, mais arrêtez une minute, là, vous dites, là, mes disciples, ils peuvent pas manger des épis parce que c'est le jour du sabbat, ou là, je peux pas faire du bien parce que c'est le jour du sabbat. » Puis là, Jésus, dans ces autres occasions-là, il y en a au moins quatre autres, là, où là, il explique, dans le fond, il revient à l'essentiel de c'est quoi le sabbat. Il essaie de les ramener à dire, ben le sabbat, pourquoi qu'il était donné le sabbat? C'était quoi le but, là, que Dieu avait, là? Ben, moi, vous dire, c'est quoi le but que Dieu avait pour le sabbat? Et là, il leur dit, c'est quoi le but que Dieu avait pour le sabbat? Pour essayer de leur dire, ben écoutez, là, c'est votre interprétation, autrement dit, est pas bonne. C'est ça que Jésus, essentiellement, essaie de faire. Ou encore, il donne aussi que dans la loi, dans la pensée que Dieu avait en donnant le sabbat, il y avait aussi des clauses d'exception. Fait que là, dans d'autres occasions, il dit, oui, mais regardez, même là, David, ou les sacrificateurs, ou même dans un cas où un animal ou une personne était en difficulté, il y avait une flexibilité, autrement dit. C'est comme Dieu, il est pas fou non plus, là. Il savait que c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça, là, l'idée du sabbat. C'était pas de vous empêcher de faire du bien. C'était pas de vous empêcher de venir en secours à une personne. Ou c'était pas de permettre à une personne qui est en train de crever de faim de manger. C'est pas ça. C'était même pas ça. Puis là, vous êtes tout croche dans votre compréhension du sabbat. Mais ici, là, il fait rien de ça. Ici, je vous dis, il les transporte dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Il les vire de bord, bout pour bout. Et si on dit que, tu sais, des politiciens, des fois, ils font des déclarations, après ça, ils disent, « j'ai jamais dû dire ça. » Et puis là, ça suscite une controverse, puis là, ça les emmène à baisser en popularité, puis là, toutes les stratèges qui sont autour de lui pour diriger sa campagne électorale, ils lui disent, oh non, faut réparer ça, faut trouver une façon de mettre un peu d'eau là-dedans, puis de diluer ta déclaration, c'est pas tout à fait ça que tu voulais dire, puis t'avais ça en pensée, puis c'était plutôt ça, puis, comprenez, ils essayent de sortir, là, tout le temps. Mais Jésus, lui, il est d'une classe à part. Parce que Jésus, il en rajoute. Ça vous choque? Ça vous étonne? Eh bien, attachez votre ceinture parce que voici ce que j'ai à vous dire d'un peu plus. Et puis là, moi, vous dire de quoi, là? Je suis certain que si on avait pris la température de ces leaders juifs-là, ils faisaient de la haute température. OK? Parce que là, c'est comme, là, tu vas trop loin. Et puis là, tu dépasses. Ils ne s'attendaient pas à une réponse comme ça, je peux vous le garantir. Et leur réaction le démontre d'une façon très claire. Mais en même temps, cette déclaration-là oblige autant celui qui a été guéri que les leaders religieux qui sont en train de questionner ce que Jésus est en train de faire, que le peuple qui observe et entend, ils sont obligés de se faire une opinion sur Jésus. Ils peuvent pas rester indifférents. C'est pas une déclaration là qu'ils ont jamais entendue dans toute leur vie ou dans toute l'histoire de leur peuple. Il y a jamais un autre homme de Dieu venu sur la terre en parlant au nom de Dieu pour leur dire qui Dieu est, quelle est la révélation de Dieu. Il n'y a jamais un autre qui a fait des miracles, même comme Moïse ou comme Élie. Jamais un autre homme qui était considéré par les Juifs en tant que, comme le roi David ou comme Moïse, comme je disais tantôt, ou un autre héros de la foi, là, tu sais, un vrai de vrai, là, lui, là, hey, ça, c'était un homme de Dieu. Ça, c'était un homme qui aimait l'Éternel. Jamais, jamais, jamais un autre n'avait osé dire ce que Jésus va oser dire. Et ça, ça veut dire que soit qu'il est un fou, un démon, un malade mental, ou bien non, il est dans une classe à part. Mais ça veut dire, là, écoute, là, c'est contre tout ce qu'on pense, ce qu'on croit. C'est comme tu chambardes tout notre système idéologique, toute notre façon de penser, toute notre façon de voir, tout ce qu'on n'a jamais compris et su de Dieu. Puis là, c'est comme tu nous annonces une affaire qui est démesurée. Bien, voyons donc. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont eu comme conclusion? T'es un imposteur. T'es un menteur. Et même plus tard, ils ont dit, t'es un blasphémateur. Est-ce vrai? Vous savez, on peut parler de Dieu constamment. On peut parler de plein de sujets spirituels qui concernent Dieu. Puis on peut parler aussi de Jésus comme étant un homme qui est venu, qui était bon, qui a fait des bonnes choses, qu'enseigner des belles valeurs, hein, des très belles valeurs. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La vraie question, Jésus nous la pose ce matin, par les déclarations qu'il fait à ceux qui l'accusent de pas observer le sabbat. Et la réponse que l'on donne à cette question va déterminer tout le reste. Tout le reste. Autant pour eux que c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui. J'aimerais, avant d'aller dans le texte biblique, qu'on prie ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être venu sur cette terre et de nous avoir, toi, en ta personne, démontré d'une façon claire et nette qui était ton Père. Et dans ta façon de vivre, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, dans ta façon de répondre, dans ta façon d'agir, en tout, Jésus, tu as toujours, toujours honoré ton Père. Tu as démontré à quel point ton amour pour ton Père était incommensurable. Rien n'égale ton amour pour ton Père. Tu étais en parfaite harmonie avec lui. Tu as jamais, jamais, jamais pensé quoi que ce soit qui était offensant pour ton Père. Tu as jamais, jamais, jamais dit quoi que ce soit qui était contre ton Père. Et tu as jamais, jamais, jamais fait quoi que ce soit qui était contre ton Père. En tout, Jésus, tu as honoré ton Père. Et tu nous as montré à quel point ton amour pour ton Père était exceptionnel. Et ce qui est incroyable, Jésus, à travers ça, c'est que ton amour pour nous est aussi incroyable. Tu nous aimes, Jésus, d'une manière qui est renversante. Tu es venu aussi pour nous, pour qu'on puisse connaître ton Père et être en relation avec ton Père, être libéré de la religion, être libéré de lourds fardeaux, être libéré de toutes nos déceptions, être libéré de toutes nos difficultés, nos problèmes, nos péchés. Jésus, tu es venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Oh, comment te dire merci ce matin? Touche nos cœurs, Jésus. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir ton Père. Qu'on puisse voir le vrai Dieu, pas celui de nos pères, pas celui de notre culture québécoise, pas celui que le monde dépeint comme un Dieu sanguinaire, désintéressé, sans cœur, passif, lointain, silencieux. Ô Seigneur Jésus, que ta parole ce matin soit entendue, que ce soit ta voix qui résonne et non la mienne, que ce soit ta parole qui soit dite et entendu, et non la mienne. On a besoin de toi, Jésus. Tu sais qu'on est en quelque sorte un peu comme cet homme qui, malgré le fait qu'il avait été guéri, avait de la difficulté quand même à savoir qui l'avait guéri, ou à recevoir pleinement qui tu étais. Et tu as continué à te révéler à lui. Tu l'as rencontré à nouveau. Et tu lui as dit qui tu étais. Et heureusement, il a reçu. Et là, tu as eu ces leaders qui avaient beaucoup de connaissances sur toi, qui certainement voulaient faire des choses pensant les faire pour toi, mais qui malheureusement n'ont pas été capables de recevoir ce que tu venais de faire et ce que tu disais. Des choses accrochées en dedans d'eux. Jésus, tu sais que à certains égards, on n'est pas tellement différents d'eux. Pourquoi, Jésus, on a tant de difficultés à recevoir qui tu es, à t'accueillir, à te faire confiance, à t'aimer, toi, à être attaché à toi comme toi tu l'étais à ton Père. Ah, Jésus, on a besoin de toi. Ne nous laisse pas tomber. Merci de ta patience. Je sais, Jésus, que tu ne nous laisseras jamais tomber, malgré les difficultés qu'on a, malgré le fait qu'on raisonne beaucoup trop, malgré le fait qu'on essaye beaucoup trop par nous-mêmes. On essaye d'imposer nous-mêmes des règles, de s'imposer des règles pour faire ceci, pour faire cela, parce qu'on a peur, parce que ci, parce que ça. Et en fait, Jésus, on a besoin de toi. On a tout pleinement en toi. Mais on voudrait tellement le vivre, Jésus. On voudrait tellement vivre cette plénitude de toi. Que tu
tout à coup, nos cœurs changent. Nos cœurs endurcis deviennent des cœurs doux, ouverts. Tes raisonnements humains, tout à coup, deviennent tes pensées qui bombardent nos cœurs constamment. Et tes versets, tes paroles qui reviennent constamment dans nos cœurs. Et là, on les reçoit. On le croit vraiment. On le vit, on le goûte. On dit la seule chose, c'est Jésus. Je n'ai pas d'autre explication. Jésus, il est vivant, il est vrai. Il est là. Il m'aime. Il est avec moi. Il me soutient. Il me fortifie intérieurement. Malgré mes circonstances difficiles, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai la paix dans mon cœur. C'est une paix qui dépasse une compréhension humaine. Je me sens en sécurité. J'ai aucune condamnation qui pèse sur mon cœur. Parce que Jésus m'aime. Je le sais. Il me l'a dit. Il me l'a montré. N'est-ce pas pour ça, Jésus, que tu es venu? N'est-ce pas ça ce que tu veux nous donner? Ce que tu veux qu'on vive? Une vie surnaturelle, dans un quelque sens, c'est une vie surnaturelle. On ne peut pas trouver ça à nulle part, mais seulement en toi. Ah, Jésus, on apporte ce matin nos vies, nos cœurs, notre esprit, notre âme. Et on te demande de nous rencontrer, de nous aider à comprendre ce que tu dis dans Jean 5. Apporte tes paroles à nos cœurs. En ton nom, Jésus, je te demande pour ta gloire. Amen. Wow. OK, mes amis. Ouais, tu as un Kleenex à quelque part, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un qui a un Kleenex? Désolé. Il y en a un ici. Je pense qu'il n'a pas été servi. Il y a encore un petit coin, chérie, qui est... OK, merci. Parce que des fois, je fais une joke à ma femme quand elle me dit « Passerais-tu un Kleenex? » Puis là, j'y passe le mien que j'ai utilisé. Puis j'y en reste encore un petit bout. Aïe, aïe, aïe. Bon. OK. Alors, retournons-nous à la parole de Dieu. Jean 5. Ah, OK, une petite revision, oui, c'est vrai. Je voulais faire juste une petite revision. Je l'ai faite, dans le fond, en 15. Ça se passe à Jérusalem. Jésus était descendu de la Galilée. On sait qu'il est allé en Samarie aussi. Alors, Jésus s'est promené un peu dans les 5 premiers chapitres. Et puis là, la vérité centrale du 3e miracle, c'était celle-ci. Aucune croyance ne peut remédier à nos problèmes, nos maladies, nos difficultés, nos épreuves ou nos péchés. Seul Jésus... Le Créateur peut nous sortir de notre misère humaine, nous guérir et nous sauver. Ça, c'était la vérité importante. Et là, on avait vu une perspective biblique sur, justement, les tragédies et comment Dieu, dans sa grâce, peut même utiliser les tragédies et puis, finalement, nous faire du bien et glorifier son nom à travers cela. Donc, la relation étonnante de Jésus avec son Père, Jean 16, à 30. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit, et l'idée ici, c'est il travaille, et vous comprenez, la seule chose qu'on ne pouvait pas faire le jour du sabbat, c'était travailler. » Ça, c'était ça le cœur du sabbat. L'homme ne devra pas travailler le jour du sabbat. C'est-à-dire, ce qu'il fait, normalement, pendant 6 jours de la semaine pour gagner sa vie, on appelle ça un travail, le 7e jour, il va arrêter, puis là, il va le dédier à l'Éternel. OK? Ça, c'était vraiment la pensée de Dieu avec le sabbat. Mais là, Jésus dit quelque chose d'assez spécial. Mon Père agit, il travaille, donc ça, jusque-là, ça va bien. Les Juifs disaient, s'il y a quelqu'un qui a le droit de travailler le jour du sabbat, c'est qui? C'est Dieu. Mais savez-vous ce que ça veut dire, ça, que Dieu travaille le jour du sabbat? Avez-vous déjà pensé à ça? Dans le fond, Dieu, il n'y a pas de jour de repos. Vous d'accord? Hein? 24-7, ou 7-24. Et chaque minute, chaque seconde en plus là-dedans, il n'y a même pas de pause. Hein? Pas de pause café. Je suis certain que Jésus va prendre un café avec moi dans l'éternité. En tout cas, c'est pas important, là. On sait qu'on va être aux noces de l'agneau, en tout cas. Il va sûrement avoir du café aux noces de l'agneau, hein? Mais Dieu, le Père, dans le fond, il n'y a pas de break. Et puis, il n'observe pas le sabbat. Il travaille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en pratique? Il est Dieu. Mais aussi, je ne sais pas si je vais trop loin, là. Puis là, peut-être mes frères dans la pastorale m'enverront des courriels. Mais tu sais, des fois, on fait des liens, puis bon, ils sont peut-être pas bons, puis des fois, ils sont peut-être bons. Mais je n'ai pas vu personne qui disait ce que je vais vous dire. Des fois, ce n'est pas nécessairement bon signe. Fait que c'est pour ça que je dis, ben, écoutez, là, prenez pas ça trop non plus comme on va partir une nouvelle église là-dessus. Non. Ça n'a pas rapport pantoute. Mais, dans Genèse, il est dit que Dieu a créé premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et le 7e jour, il sait. Ah! Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Est-ce qu'il ment? Non! Oh, excusez-moi! En passant, vous savez qu'on va peut-être être un jour grand-papa. En tout cas, là, j'ai ma fille Émilie qui s'est mariée cet été, au mois d'août. Oui. Effectivement. Alors, on a bien hâte de voir si il va y avoir quelque chose là, qui va arriver. Mais en tout cas, là, c'est quoi je disais donc? Ah oui, c'est ça, le jour du sabbat. Alors là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je ne sais pas si vous voyez ou c'est rien que moi qui vois ça, là. Mais ça veut dire, ça veut dire que, c'est-tu vrai que le 7e jour, il s'est reposé? Qu'est-ce que t'en penses, Gilles? Toi, André? Il a dû se reposer, il dit qu'il s'est reposé. De cette œuvre de, c'est ça, de la création. Puis là, avec qu'est-ce que Jésus est en train de dire, que, en fin de compte, son Père, il travaille. Donc, là, il implique que le jour du sabbat, son Père, il travaille. Là, on comprend qu'il va aller plus loin, là, parce qu'il va s'associer à son Père. Puis là, c'est là que ça va déraper pour eux autres. Parce que jusque-là, ça va bien. Là, OK, oui, Dieu travaille, OK, on comprend ça, il travaille le jour du sabbat. Oui. OK, moi, j'aurais pensé, tu aurais dit, depuis qu'il a créé la femme, il peut se reposer. Non, c'est, depuis qu'il nous a créés, là, c'est vrai, il ne peut pas. Non, mais je ne pense pas que c'est ça, là. Je ne pense pas que c'est parce qu'il nous a créés. Parce qu'en fait, c'est après nous avoir créés qu'il s'est reposé. Mais un jour. Mais ce que ça voudrait dire, en tout cas, c'est assez spécial, là, c'est ça, c'est que le seul jour de repos que Dieu a eu, ça a été après la création. Parce qu'après ça, il n'a jamais arrêté. Fait qu'il y a eu un jour de repos. Dieu travaille.
Mon Père travaille. Et Jésus continue. Jusqu'à présent, okay? Moi aussi, j'agis, je travaille. C'est la même affaire. De la même façon que mon Père agit, travaille le jour du sabbat, bien, moi aussi, j'ai la prérogative de agir et travailler. Jésus n'a jamais été là. Autrement dit, Jésus change totalement le focus du sabbat et là, il l'emmène sur quelque chose de totalement différent, qui est son égalité avec son Père. Et ça, ça va devenir le point tournant dans le ministère de Jésus. Parce que là, pour eux, là, puis on va le voir dans le reste du texte, c'est clair ce que Jésus est en train de dire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'interprétation possible. Ils comprennent très bien que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il est égal avec son Père. Et là, il va en rajouter, comme je disais tantôt. Il n'arrête pas là. C'est pas comme s'il dit ça, puis après ça, essayez de comprendre ce que je viens de vous dire. Est-ce que j'ai vraiment dit ce que je viens de dire? Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Ou est-ce que Dieu travaille d'une manière, moi je travaille d'un autre? Peut-être. Comprenez? Non, non. Là, il va même en rajouter. Il va lui en donner plein la vue, ou en tout cas, ils vont avoir chaud. Et là, je continue. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, selon leur compréhension, vous comprenez? Mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. C'est clair, là. On n'a pas à chercher, là. Qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est clair qu'est-ce qu'ils ont compris. Un, tu ne respectes pas le sabbat. Puis même, ce que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est que dans la compréhension des Juifs, c'était pire d'encourager quelqu'un à ne pas observer le sabbat que de ne pas observer le sabbat. Vous comprenez? Donc, Jésus, là, pour ça, ils ont dit, mais c'est qui t'a dit ça? Parce que ça, là, c'est un crime encore plus grand. Bon, toi, tu n'as observé le sabbat, là, peut-être que tu t'es laissé influencer, on t'a mal induit, c'est pas correct. Mais là, si quelqu'un en plus t'influence et ose dire que tu peux ne pas observer le sabbat, lui, il est encore plus coupable, vous comprenez? Puis il devrait traiter encore avec plus de sévérité. Et c'est pour ça aussi qu'ici, ils reviennent là-dessus. Et parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Et là, il est en train de démontrer que, autrement dit, ce que je vous dis en même temps, ce n'est pas une déclaration d'indépendance contre Dieu. Moi, je ne suis pas un compétiteur à mon Père. Moi, je ne suis pas un autre Dieu. Moi, je suis parfaitement uni à mon Père. Moi et mon Père, là, puis là, on le sait qu'il va le dire à plusieurs autres occasions, on est un. Comprenez? Je viens de mon Père, je suis en mon Père. Mon Père est en moi et on travaille ensemble, mais il est vrai que moi, je ne fais absolument rien sans l'approbation de mon Père. Et ça, c'était un aspect très important que Jésus voulait souligner. Et là, il dit au verset 20, « Car le Père aime le Fils. » Et remarquez le nombre de fois que le « car » est souligné. Ça, c'est pour appuyer la déclaration que Jésus dit qu'il est égal à son Père. Alors là, ici, il dit, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres même plus grandes que celles-ci, alors que afin que vous soyez dans l'étonnement. » Autrement dit, si là, vous êtes étonné de ce que j'ai guéri cet homme-là, alors vous n'avez rien vu encore. Il va avoir encore des plus grandes œuvres que d'avoir simplement guéri un paralytique. Et il va expliquer un peu aussi qu'est-ce qu'il veut dire par ça. « Car, il a un autre car, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. » Et là, ici, ça, c'était comme une prérogative très claire dans la pensée des Juifs, qu'il y a juste Dieu qui peut faire ça. Autrement dit, il y a certaines choses que nous, on peut faire, qu'on pourrait imiter jusqu'à un certain point. Mais ressusciter un mort, là, écoutez, là, ça, c'est de la matière de Dieu, là. Il y a juste Dieu qui peut ressusciter des morts. Aucun humain, aucun homme ne peut ressusciter des morts. Seulement Dieu peut ressusciter des morts. Et là, Jésus dit qu'il va le faire, tout comme son Père le fait.
Et là, au verset 22, « Car, ou de plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Et encore là, pour eux, c'était très clair dans leur compréhension des Écritures que c'est Dieu qui allait un jour juger. Là, Jésus dit, « Non, c'est pas mon Père qui va juger, c'est moi. Il a remis tout jugement entre mes mains, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. » Comprenez comment que pour eux autres, là, c'est comme, certains qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus entendre ce qu'ils disaient tellement que c'était offensant à leurs oreilles. Pour nous, on a un peu de misère à voir à quel point ça pouvait être gros là, ce que Jésus est en train de dire, parce qu'on n'a pas cette difficulté-là que je dirais, qui est historique. Nous, on a été élevés dans une culture où le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient un. Un mystère et tout ça, mais comprenez, on n'a pas eu de misère vraiment. Il y en a là, qui ont de la misère avec la conception que Jésus serait Dieu égal à son Père. Il y a des religions aussi qui enseignent que ce n'est pas le cas, qui est inférieur, qui est un Dieu ou un ange, ou ainsi de suite. Là. Mais en général, je dirais que mais pour eux, là, c'était incroyable. Ça venait lui frapper là, comme une brique. Et là, il dit ensuite au verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et là, on voit que là, il tend la main, dans le fond, en disant, « Voici comment, maintenant, saisir ce pourquoi je suis venu. Et si vous recevez mon message, bien voici, vous ne viendrez pas en jugement, mais vous allez avoir plutôt la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Et encore là, il est en train de parler à des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont morts spirituellement, et que s'ils entendent la voix de Dieu, et ça ici, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est un miracle, et là, quelqu'un saisit qui est Jésus vraiment, la portée de sa personne et de son identité, et du fait qu'il est égal à son Père, et du fait qu'il est venu sur la terre comme le Messie, qu'il est mort à la croix, qu'il a pris ses péchés sur la croix et mes péchés sur la croix, donc les péchés de l'humanité entière sur la croix. Et là, Jésus est mort, et là, la personne comprend que c'est pour lui personnellement aussi que Jésus est mort sur cette croix-là. Et là, le Saint-Esprit vient transformer son cœur. Et là, comme dans Jean 3, il naît d'en haut. Et là, c'est un miracle incroyable que de pouvoir expérimenter cette nouvelle naissance. Et là, Jésus ici, dans le fond, est en train de l'expliquer d'une autre façon. « En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Encore là, c'est incroyable. Et ça ici, ce n'est pas juste la vie comme vous et moi, on a la vie. Ici, c'est la vie divine. C'est la vie de Dieu. Comprenez? Tout comme Dieu a la vie divine, qu'il est divin, le Fils aussi a la vie divine, il est divin. C'est incroyable, c'est fantastique. Et il a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Verset 28, « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Là, il les transpose même jusqu'au dernier jour, où là, il va justement juger toute personne. Et ici, quand il parle de ceux qui auront fait le bien, il n'est pas en train de revenir à un salut par les œuvres, il est simplement en train de dire « ceux qui auront cru en moi ». C'est clair dans le contexte ici. Ceux qui ont reçu le fait que je suis le Messie, que je suis égal à mon Père, et qu'à travers moi, vous pouvez avoir le pardon des péchés et la vie éternelle, et que vous ne serez pas jugés, ceux-là seront ressuscités pour la vie éternelle. Tandis que ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas reçu mon message, et eux n'étaient pas en train de le recevoir, son message, alors ceux-là. Parce que dans la pensée des Juifs aussi, c'était pour aller au ciel, il faut justement être un bon Juif, puis observer quoi? Le sabbat. Donc, quelqu'un qui n'observe pas le sabbat, pensez-vous qu'il va aller au ciel? Non, Jésus, ça n'a rien à faire avec observer le sabbat. Ce n'est pas une religion, ça n'a rien à faire avec ça. Mais ça a tout à faire avec qui je suis. Avec qu'est-ce que vous croyez de moi, ou si vous croyez en moi ou non. Ça, c'est ce qui va déterminer l'enjeu véritable. Ce que cette déclaration du verset 17 implique, que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Premièrement, Dieu a un Fils qui est divin. Deuxièmement, ce Fils divin est égal à Dieu, ici référence à Yahweh, qui est vraiment l'Éternel. Ce Fils divin travaille 24 heures, 7 jours et 365 jours par année depuis la création du monde jusqu'à ce jour, au même titre que son Père, et ça, à l'exception d'une journée, OK, après la création. Et quatrièmement, ce Fils divin, par contre, n'a jamais indépendamment agi de son Père et il ne fait aucune action qui l'oppose à son Père. Là, il y a une parfaite harmonie. Il n'est pas en compétition, c'est simplement qu'il est le Fils de Dieu et l'expression même de Dieu. En Jésus, on a tout ce qu'on a besoin de voir et de connaître et de comprendre sur qui est Dieu vraiment. Jésus est le parfait, la parfaite représentation de Dieu en tout point. Et finalement, ce Fils divin se nomme Jésus de Nazareth. Il est devenu le Fils de l'homme, celui par lequel Dieu allait racheter les hommes de leurs péchés et exercer le jugement au dernier jour. C'est ça que Jésus, dans le fond, leur présente. Maintenant, qu'est-ce que la déclaration que Dieu agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis soulève un petit peu dans nos cœurs? Moi, en tout cas, quand je l'ai étudié cette fois-ci, puis là je l'ai vu, ça m'a tellement touché, ça m'a vraiment touché d'entendre Jésus dire « Mon Père agit jusqu'à présent, puis moi aussi j'agis ». Qu'est-ce que ça veut dire en pratique, ça? Là, ici, on comprend, c'est le contexte du sabbat, que le miracle que Jésus a fait, mais c'est quoi l'implication d'une telle déclaration pour nous, par exemple, aujourd'hui? Révélation. Oui? On est toujours l'objet de ses pensées. Oui? Très bon. Quoi d'autre? Il veut encore sauver. Quoi d'autre? Toi et ton père, lui et son père, il est en toi, il est en celui qui... OK. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est super, là, ce que tu viens de dire. C'est vrai aussi, la parole l'enseigne. Mais qu'est-ce que ça implique, là? C'est ça que j'aimerais voir. Hein? Oui, il est disponible. On se rapproche, on brûle. Il est disponible. Hein? On est quoi? On n'est jamais seul. Et ça brûle encore un peu plus. Mais quoi plus encore? Et quoi? Il est vivant. Oui, oui, c'est excellent. Alors, vous vous rapprochez. Il intercède. Oui, amen. André. N'importe quand. Encore, j'en ai besoin d'un peu plus, là. Vous pouvez m'en donner un peu plus, hein? Il transforme. Encore un petit peu plus. Il intervient. Il ne fait pas juste parler. Il n'est pas passif. Comprenez-vous, là? Parce que je sais qu'une des choses que le Québécois typique, et que je dirais probablement l'être humain, là, peu importe qu'il vienne du Québec ou pas, là, mais je sais que particulièrement peut-être au Québec, pour l'avoir expérimenté même, puis le voir dans ma propre vie, là, mais une des choses avec lesquelles notre cœur lutte, c'est la question suivante. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu me voit? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi est-ce que Dieu ne guérit pas mon cancer? Pourquoi est-ce que Dieu ne ramène pas mon enfant qui s'est éloigné de lui? Pourquoi? 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 T'es où, Dieu? Quand ça fait mal, hein? Il y a un chanteur québécois, hein, qui a composé une chanson. T'es où, Dieu, quand ça fait mal? Là, je suis certain qu'il aurait pu rajouter un juron avec ça. Quand ça fait mal, il est où, Dieu? Hein? N'est-ce pas? Peut-être que cet homme-là, qui était sur son rempart, là, s'est peut-être posé la question pendant des années. Pourquoi Dieu me traite de cette manière-là? Pourquoi moi? Si Dieu est si bon, si Dieu est si grand, si Dieu est si puissant, il est où? Oh, il n'y a pas eu un autre enfant qui a pleuré. Désolé, hein, des fois ça sort seul, là, hein? Comprenez ma question? Et moi, honnêtement, là, c'est le combat de mon cœur. Quand mon cœur ne va pas bien, c'est cette question-là que j'ai sur mon cœur. Seigneur, t'es où? J'ai besoin de voir ta main agir. Pourquoi tu n'agis pas? Mais savez-vous ce que la réponse de Jésus nous donne? C'est un mensonge. C'est pas parce qu'on ne le voit pas agir qu'il n'agit pas. C'est pas parce qu'il ne fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse qu'il n'agit pas. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on n'a pas ce qu'on pense qu'on devrait avoir qu'il n'agit pas. Il agit. Il agit, c'est fantastique, il agit. Et une des choses que j'aime tellement dans le ministère de prendre soin des cœurs blessés, c'est de voir comment Jésus vient rencontrer le cœur d'une personne qui lutte avec cette question. Puis qui dit, Jésus, t'étais où? T'étais où quand mon papa m'abusait? Puis moi, je te demandais, qu'il arrête. Je veux qu'il arrête. Jésus, fais-le arrêter. Mais il n'a pas arrêté. T'étais où? Et là, Jésus vient rencontrer ce cœur qui, depuis des années, se pose cette question-là. Et là, dans la prière, Jésus soit amène un verset comme celui de ce matin. J'agis. J'étais là. Mais je ne pouvais pas empêcher ton papa de le faire. Parce que je l'ai créé avec sa volonté, mais c'était mal. Mais moi, je veux te guérir du mal qui te fait. Je veux t'en libérer. Et je veux même me glorifier à travers ça. Je veux que tu puisses aider d'autres personnes. Ou je veux que tu puisses réaliser à quel point je t'aime. Et là, tout à coup, le mal devient plus du mal. C'est vraiment bizarre, hein? Comment Dieu, dans sa grâce et dans sa puissance, peut enlever quelque chose qui était extrêmement mal, qui faisait extrêmement mal, puis tout à coup, c'est comme un sujet de louange. Où là, tout à coup, j'envisage des avenues que jamais dans 100 ans, j'aurais eues. Comme, par exemple, aller voir mon père et lui dire, « Papa, je te pardonne. » Sais-tu pourquoi je te pardonne? C'est parce que Jésus, il m'aime. Jésus a guéri mon cœur. Puis papa, t'as besoin de Jésus. Puis là, le papa qui se tourne vers Jésus. Comment expliquer ça? Est-ce que ça arrive à chaque fois? Non. Mais je sais une chose. C'est que le Père agit jusqu'à présent. Et Jésus aussi agit. Et c'est ça le Saint-Esprit, la vérité, qui veut ramener sur nos cœurs constamment, par des versets comme celui de ce matin, par des actes de bonté, de grâce, par d'autres versets qu'on lit dans la parole de Dieu, par un cantique qu'on chante qui nous rappelle que Dieu est là. Quand j'ai besoin, tu es là. Hey, on pourrait-tu chanter ce chant-là? Peut-être je vais inviter l'équipe. Je vais finir avec ça ce matin. Je pense que de finir avec ça ce matin, c'est peut-être approprié. Seigneur, tu es là. Je ne sais pas si on peut l'avoir. Est-ce que ouais, si tu vas pouvoir jouer quand même? Ça serait tellement fantastique de chanter, de finir avec ce chant. Seigneur, tu es là. Et si ce matin, vous avez besoin que Jésus soit là, vous avez besoin non seulement de savoir là, que c'est vrai, que Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est bon, Dieu est fantastique, mais vous avez besoin que votre cœur aussi le reçoive et que vous puissiez le voir là, et en avoir cette conviction. Demandez-lui ce matin pendant le chant. Jésus, est-ce que je peux aller à toi quand j'ai besoin de consolation? J'ai besoin de consolation ce matin. Le chant dit que tu es là. Ce matin, tu dis que tu agis. C'est-tu vrai, Jésus, que tu agis? Montre-moi là, c'est quoi tu es en train de faire dans mes circonstances, là, qui ça va pas bien, puis c'est j'ai pas de réponse, puis ça fait pas de sens, c'est injuste.
Jésus, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me montrer que je ne vois pas? Toi, tu as une perspective là, complètement différente. Tu as la vraie vérité, la vraie perspective. Jésus, montre-moi-le. Montre-moi-le par un verset. Mets une pensée sur mon cœur. Ramène-moi dans tes bras d'amour. Ça marche? On se lève ensemble et on va aller dans sa présence.